Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je pourrais avoir la zapette pour faire défiler le diaporama ? Alors nous continuons aujourd'hui notre série de prédications sur l'Épître aux Hébreux. Et avant de commencer la lecture du passage que nous méditerons aujourd'hui, je voudrais vous faire quelques rappels du contexte de la lettre et du but qui est poursuivi par l'auteur. Les destinataires de cette lettre sont des chrétiens, majoritairement d'origine juive, et qui sont persécutés pour avoir quitté la synagogue et avoir reconnu en Jésus le Messie qu'attend le peuple d'Israël. Et ils s'attendaient à ce que ce qui avait été annoncé se réalise assez vite, finalement. Et j'ai lu dans un commentaire qu'à la différence des chrétiens, pour les juifs, le temps se décompose en deux étapes, l'avant-Messie et l'après-Messie. Alors que pour les chrétiens, il y a trois étapes. Il y a avant la venue de Jésus, il y a depuis Jésus jusqu'à son retour, et il y a après son retour. Alors ce n'est pas un détail, parce que ça veut dire que pour un juif, si les choses vont mal, c'est que le Messie n'est pas encore arrivé. Parce que s'il était arrivé, eh bien on serait déjà dans la deuxième étape. Et donc, ils sont à une époque où ils ont vu les premiers convertis qui disparaissent, qui meurent avec l'âge. Hein, et donc, ils s'interrogent un peu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, il y a des persécutions. Donc, certains sont tentés de, de ménager la chèvre et le chou, quoi, d'aller un peu vers un entre-deux. Et pour certains, ils pourraient peut-être se dire, puisque tout continue comme avant, nous aussi continuons à faire comme avant. Et le but de l'auteur, c'est de les mettre en garde, et on va voir même parfois de les réprimander, mais aussi de les encourager à persévérer. Et nous verrons que le texte de ce matin contient à la fois des avertissements, des réprimandes, des exhortations, mais aussi des encouragements. Alors le passage de ce matin est long, il y a 24 versets, donc je le lirai en 4 fois. Je ferai des commentaires relativement brefs, pour essayer de garder un peu de temps pour des applications pratiques, et j'ai bien conscience que, pas la première fois, mais je me suis dit que ça vaudrait presque la peine de refaire une étude biblique sur ce texte pour pouvoir aller gratter plus au fond, tellement il y a de choses dedans. Première lecture, chapitre 5, verset 11, jusqu'à 6, 3. C'est un sujet sur lequel nous aurions bien des choses à dire, mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. J'ai oublié de vous dire que je vous lis la traduction « Parole vivante » qui est quand même un peu loin du texte qu'on a l'habitude de lire. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait et non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste, c'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie antérieure vouée à la mort et la foi en Dieu. L'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Laissons donc ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble avec l'aide de Dieu des vérités plus profondes correspondant au stade adulte. On arrêtera là cette première lecture. Au verset 11, le sujet à propos duquel il y aurait beaucoup à dire, c'est le ministère sacerdotal de Jésus. Et ce sera développé en détail dans les chapitres 7 à 10, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. L'auteur fait à la fin du chapitre 5 un constat inquiétant. La communauté à laquelle il s'adresse ne progresse pas et il lui adresse un certain nombre de reproches. Est-ce que ces reproches, nous les recevons pour nous aussi éventuellement ? Ça vaut la peine en tout cas de se poser la question. Vous êtes devenu lent à comprendre. J'ai été interpellé par le devenu. Ils ne l'ont pas toujours été, mais vous êtes devenu lent à comprendre, nonchalant, voire négligent. Alors que vous êtes converti depuis des années, eh bien vous en êtes encore au béaba de la foi. Et plus loin dans l'épître, il évoquera même l'éventualité que certains d'entre eux soient devenus résistants à la parole au point de la renier. Et après avoir fait ce constat alarmant, l'auteur nous propose un remède. Construire sur les fondements qu'il énumère dans les versets 1 et 2 du chapitre 6. Je ne m'étendrai pas sur ces fondements, je veux dire, c'est le béaba. Et je résumerai ces 7 premiers versets par la phrase suivante. Ne vous contentez plus d'un biberon, mais choisissez une nourriture bien plus riche. Alors je me dis, c'est un peu sadique de vous montrer ça à 11h15, en sachant que vous n'êtes pas sur le point de passer à table. Donnons un exemple. Jean 3, verset 36 commence ainsi. Celui qui croit au Fils a la vie. Effectivement, ça c'est la première chose à comprendre, c'est le béaba. Jésus est mort pour nos péchés et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ça c'est le lait. C'est la bonne nouvelle que nous acceptons avec joie et sans difficulté. Le lait ça ne se mastique pas, hein. Hop, on l'avale. Mais l'enseignement dispensé par Jésus lorsqu'il lave les pieds des disciples, ça, c'est une nourriture un peu plus solide, un peu plus difficile à assimiler. Jean 13, verset 15, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et plus loin, au verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. » C'est bien d'entendre et de savoir, « pourvu que vous les pratiquiez. » Et là, il faut s'y mettre, quoi. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut le faire. Il ne s'agit plus d'acquiescer, mais de passer aux actes, de mettre en pratique. Éphésiens 4 nous donne une définition de l'homme mûr, spirituellement. C'est celui qui tend vers la stature parfaite de Christ. Tendre vers, c'est s'approcher de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive au but. On sait très bien que ça n'aura lieu que lorsque nous serons auprès du Seigneur, mais tendre vers. Et si vous voulez vous approcher encore un peu plus de la stature parfaite de Christ, j'ai une nourriture encore plus solide pour vous. Matthieu 5, 39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Celui qui est capable de mettre ce verset en pratique, effectivement il a compris beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais je ne sais pas vous, mais moi je dois la mastiquer encore, hein, cette nourriture-là, j'en suis pas encore à aller spontanément présenter l'autre jour. C'est celui qui est capable de mettre ce verset en pratique, c'est pas de la faiblesse comme le croit le monde, mais c'est une foi et une espérance solide. Deuxième lecture. En effet, il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte. Si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière d'en haut. S'ils ont goûté au don du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole de Dieu était bonne et bienfaisante, et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir, si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leur ancienne vie, il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude, car au fond, ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu pour leur propre compte et de le déshonorer publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux qui la cultivent, c'est une terre bénie de Dieu. Si par contre elle ne porte que des buissons d'épines et des chardons, elle est jugée sans valeur et vouée tôt ou tard à être condamnée. On finira par y mettre le feu. Ce deuxième passage, très controversé et donnant lieu à des interprétations très diverses, commence par un avertissement sévère et se termine par une illustration à caractère agricole. Cet avertissement, c'est le suivant: veillez à ne pas en venir à renier votre foi en Christ. Dans le cas des Hébreux à qui cette lettre est destinée, ils pouvaient être tentés, pour éviter les persécutions, de continuer certaines pratiques anciennes, ou d'y revenir s'ils les avaient abandonnées pour un temps, notamment en ce qui concerne les sacrifices offerts pour le pardon des péchés. Ça tient une place importante dans la culture juive. Et c'était un commandement dans l'Ancien Testament. Mais l'auteur leur dit, si tel était le cas, si vous reveniez à ces pratiques, cela viendrait à considérer que le sacrifice de Christ à la croix n'est pas suffisant pour obtenir le pardon, et donc ainsi vous vous priveriez du pardon par grâce, et vous vous replacez sous le régime de la loi. Mais nous savons qu'aucun homme, à l'exception de Jésus, n'est parvenu à satisfaire aux exigences de la loi. Tous ont péché, le salaire du péché c'est la mort, on le répète régulièrement à ce micro. Voilà pourquoi l'auteur insiste autant tout au long de l'épître sur le ministère sacerdotal de Jésus. Et lorsque je lis le verset 5, je repense au peuple israélite lors de l'Exode, qu'on pourrait paraphraser ce verset 5 en disant « Le peuple avait été éclairé par la colonne de feu, il avait goûté la manne tombée du ciel. » Et là, j'ouvre une parenthèse, quand on goûte quelque chose, on se dit « Bon, on en prend un petit échantillon. » Non, c'est pas ça, ils n'ont pas eu quelques grains de manne. Ils ont eu la manne en abondance. Et là, c'est goûté. Je trouvais ça dans cette image, dans un commentaire. Jésus a goûté la mort. Il est entré dedans profondément. Le verbe goûter en français peut avoir plusieurs sens. Ils avaient goûté la manne tombée du ciel. Ils avaient reçu par l'intermédiaire de Moïse la bonne parole de Dieu. Et pourtant, ils sont tombés. Probablement, vous vous êtes fait un jour cette réflexion, mais comment, après avoir vu tout ce qu'ils avaient vu, ils ont pu douter, ils ont pu contester? Enfin, quand même, la mer Rouge qui s'ouvre, ça ne s'oublie pas. La colonne de nuée qui éclaire comme ça, je ne sais pas, vous imaginez qu'un jour vous soyez témoin de ça? Et pourtant, ils sont tombés. Mais est-ce que nous aurions fait mieux qu'eux? Quand on a soif, est-ce qu'on n'est pas tenté de râler un peu en disant « il fait chaud » Pourquoi est-ce qu'on connaît tout ça? Au point que certains voulaient retourner en Égypte en disant « on était mieux avant, esclaves ». Mais au moins on avait la nourriture, on ne devait pas chercher. Si on cherche à revenir à notre époque, il arrive malheureusement que pendant tout un temps, une personne fréquente une église, lise la Bible, participe à un groupe de prière, bref, que son comportement donne à penser qu'elle est convertie. Et puis un jour, cette personne disparaît ou retourne à son ancien mode de vie. À l'occasion d'une épreuve, par exemple, j'ai eu l'occasion de témoigner déjà à ce micro que mon grand-père a perdu un bébé après 3 semaines de prière, et il a dit « il n'y a personne là-haut ». Et il s'est complètement détourné de Dieu, alors qu'il était bien engagé dans la foi catholique. En tant que pasteur, l'auteur sait que cela peut se produire et il veut mettre en garde ceux à qui il écrit. La question se pose alors, ces personnes qui reviennent à leur vie ancienne, ont-elles un jour été de vrais croyants qui ont perdu leur salut Ou est-ce qu'alors leur foi était trop superficielle et ils n'étaient pas de vrais croyants? Je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas juger ça. La foi de quelqu'un, moi je vois des fruits, je vois des choses, je vois des signes. Mais aller dire, lui il est sauvé, lui il ne l'est pas, qui a ce pouvoir? Les versets 4 à 6 sont souvent cités pour affirmer qu'il est possible, pardon, je me perds dans ma phrase, les versets 4 à 6 sont souvent cités pour affirmer qu'il est possible qu'un croyant perde son salut. Certains pensent cela, bien qu'il y ait dans la Bible de nombreux versets qui disent le contraire. Alors c'est un sujet très vaste, je vais juste l'évoquer rapidement. Pour résumer, il y a deux positions. Il y a la position de Calvin qui considère que le salut ne dépend que de Dieu seul et que quoi qu'il fasse, l'homme n'y a aucune part. Un croyant ne peut donc pas perdre son salut, sinon c'est le signe qu'il n'était pas un vrai croyant. Parmi les versets, alors il y en a toute une liste, j'en ai retenu qu'un, Jean 10, verset 28, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Jules Marcel Nicole fait cette remarque, je cite « Une vie que l'on pourrait perdre ne serait pas éternelle. » Ce point de vue de Calvin, là, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la persévérance des saints. Des saints. L'autre point de vue, soutenu entre autres par Arminius ou par Wesley, considère que le salut est conditionnel à la persévérance dans la foi. C'est-à-dire que pour être sauvé, il faut persévérer jusqu'au bout. Et il s'appuie par exemple sur Matthieu 24, 10 qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors vous pensez bien que je n'ai pas la prétention d'arbitrer ce débat ce matin. Je me contenterai de vous lire un court extrait de la confession de foi de notre famille d'église, la confession de foi de la FEF. Le Saint-Esprit rend capable de progresser dans la vie chrétienne et d'y persévérer jusqu'à la fin. Dans notre famille d'église, nous considérons donc qu'un croyant ne peut pas perdre son salut. Et là encore, j'ai lu dans un livre de Jules Marcel Nicole, le précis de doctrine chrétienne, que si ces deux points de vue semblent contraires l'un à l'autre et inconciliables, il nous dit, mais quand on y regarde dans la pratique, il n'y a pas tant de différence que ça dans la façon de vivre sa foi entre un calviniste et un arménien. Un vrai calviniste, il ne se dit pas, je suis sauvé, donc je peux m'arrêter là, quoi. C'est bon, j'ai la garantie. Ben non, s'il aime vraiment le Seigneur, s'il est converti, eh bien, il aura envie de persévérer. Quant au Wesleyen, ben lui, il a envie de persévérer aussi parce que, bon, il veut atteindre le but. Et finalement, ce matin, le Seigneur m'a mis cette pensée en disant, dans l'épître de Jacques, quand on parle de la foi et des œuvres, on sait très bien que c'est la foi qui sauve et pas les œuvres, mais il compare ça à une médaille en disant, mais la foi et les œuvres, c'est deux faces d'une même médaille, ça va ensemble. Est-ce qu'on peut avoir la foi sans la persévérance? Est-ce que les deux peuvent être indépendants, dissociés? Mon sentiment, c'est que non. Vient ensuite cette parabole agricole. Lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux qui la cultivent, c'est une terre bénie de Dieu. Si par contre elle ne porte que des buissons d'épines et des chardons, elle est jugée sans valeur et vouée tôt ou tard à être condamnée. On finira par y mettre le feu. Alors pour voir si je ne vous ai pas endormi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui attire la bénédiction ou la malédiction de Dieu sur cette terre? Quel est le critère qui fait qu'une terre est bénie de Dieu et que l'autre est vouée au feu? Les fruits. Voilà, si la terre produit de bonnes choses, elle est bénie, si elle produit des ronces et des épines, eh bien, elle est destinée au feu. Cela fait penser au figuier maudit par Jésus, parce qu'il n'y trouve pas de fruits. Ça fait penser aussi à la parabole du semeur, cette graine qui tombe dans une terre qui lui permet de germer, mais qui est étouffé par les ronces et les épines. Et on peut remarquer au fait que l'auteur est quand même assez adroit dans sa façon de présenter les choses, parce qu'il nous met du point de vue de l'agriculteur. Quand vous avez une parcelle de terrain, si vous essayez de la cultiver et qu'elle vous donne du fruit, ben vous l'entretenez, etc. Mais si elle vous produit des ronces et des épines, qu'est-ce que vous en faites ? Alors soit vous êtes obstiné et vous mettez le feu en disant peut-être que ça ira mieux l'année prochaine, soit vous la vendez, vous vous en débarrassez. Et finalement, ce qui peut paraître dur dans le jugement de Dieu, mais l'auteur nous dit, mais si vous étiez agriculteur, vous feriez comme Dieu. La suite du texte que nous allons bientôt lire nous montre en fait que l'auteur ne doute pas du salut des personnes auxquelles il s'adresse, mais il veut quand même attirer leur attention en disant, la foi suppose aussi la vigilance. Ne devenez pas négligent. La zapette résiste. Voilà, merci. Reprenons la lecture. Mes chers amis, même si nous parlons ici un langage sévère, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle qui est en rapport avec le salut. Car Dieu est juste. Il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus, que vous rendez encore, aux autres chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. Alors vous ne risquerez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en position de l'héritage promis. Changement de ton. Hein. Après une sévère mise en garde, l'auteur tient à rassurer les destinataires de la lettre. Vous avez remarqué, il les appelle « chers amis » et il les assure qu'ils sont sur la bonne voie. Mais alors pourquoi est-ce qu'il leur a adressé des mots aussi sévères avant ? Une explication pourrait être qu'il est confiant dans l'ensemble du troupeau, mais qu'il a des craintes pour quelques-uns. C'est un peu la même situation que ce matin, je suis en train de prêcher à des gens qui ont des histoires très différentes. Il y en a qui ont ouvert une Bible peut-être pour la première fois il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Il y en a qui ont ouvert leur première Bible il y a 70 ans ou 75 quelquefois. Et il y a un public très disparate. Donc quand vous adressez un groupe comme ça, bah, chaque parole enfin, parle plus ou moins et plus ou moins appropriée à quelqu'un. Et bah oui, souvent, même dans nos églises, il y a des gens qui ont besoin d'entendre les avertissements qui ont été lus dans les versets précédents. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. Et là, il s'adresse à un groupe, mais chacun en particulier. Il a le souci de chaque membre de la communauté. Et après avoir fait le constat d'une certaine léthargie ou d'une absence de croissance, il veut stimuler le zèle des membres de la communauté. Et cette succession de mises en garde et d'encouragement est une illustration de la tension qui existe entre la promesse d'un salut certain et l'exhortation à persévérer. Celui qui est certain de son salut court le risque de devenir négligent, et celui qui craindrait constamment de perdre son salut vivrait dans l'angoisse et ne serait plus au bénéfice de cette assurance que Dieu veut déjà nous donner. Que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de la espérance. Nous sommes dans le pas encore, et l'auteur nous rappelle, il y aura un jour où là nous serons dans les choses qui seront faites. Et après les avoir exhortés à ne pas être nonchalants, il leur rappelle pour les encourager que Dieu se souvient de l'activité qu'ils ont déployée par amour pour lui, des services qu'ils ont rendus et qu'ils rendent encore. Il a commencé par souligner les faiblesses, mais là maintenant il rééquilibre la balance en disant « Mais attention, tout n'est pas noir, il y a des choses aussi qui sont portées à votre acquis et Dieu n'est pas aveugle pour les voir. » Dieu n'est pas oublieux, il voit vos actions, il voit vos combats et pas seulement vos échecs. Et si l'auteur leur a reproché leur absence de croissance, il reconnaît qu'ils sont encore actifs, même s'ils ne le sont pas assez à son goût. Voyons la dernière partie. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment sur son propre nom, car il ne pouvait pas jurer au nom d'un plus grand que lui-même. Il déclara « En vérité, je te le promets, je te comblerai de bénédictions et je te donnerai une nombreuse prospérité. » Postérité, pardon, j'ai dit quoi ? Prospérité, ah oui, c'est pas... Bon, même si apparemment Abraham était prospère, mais c'est pas ça la promesse. Et Abraham lui fit confiance. Il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu avait promis. Il est de coutume parmi les hommes de prêter serment au nom d'un plus grand que soi. Le serment qui vient appuyer une affirmation est une garantie qui met fin à toute contestation. Voilà pourquoi Dieu aussi ajoute à sa parole un serment. Il a voulu par là donner aux bénéficiaires de la promesse une preuve supplémentaire qu'il ne changerait jamais sa décision. Nous sommes donc en présence de deux actes irrévocables, la promesse et le serment, par lesquels Dieu s'interdisait à lui-même de modifier sa résolution. Le Dieu qui ne saurait mentir entendait nous donner par là une assurance inébranlable. Il voulait nous encourager, nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Cette espérance est pour nous l'encre solide et ferme de nos vies. Elle pénètre par-delà le voile du sanctuaire céleste jusque dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Là, Jésus est déjà entré pour nous en précurseur, lorsqu'il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. L'auteur nous rappelle donc l'exemple d'Abraham, et Abraham, ça doit parler aux Juifs, hein, je veux dire, c'est le père de la nation, donc ils sont concernés. Lui aussi a dû attendre longtemps la réalisation de la promesse faite en Genèse 13, verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Ne voyant pas comment la promesse pourrait se réaliser, Abraham lui répond « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Ce ne sera pas ma succession, ce sera quelqu'un d'autre. Alors Dieu lui répond, « Regarde vers les ciels, compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et j'arrête là l'énumération des renouvellements de la promesse, parce qu'il y en a bien d'autres dans Genèse. Comme je vous le rappelais, les destinataires de la lettre vivent à une époque où les premiers chrétiens disparaissent, sans avoir vu se réaliser la promesse du retour de Jésus-Christ, d'établir son royaume sur cette terre. Et ils vivent dans la persécution, alors que le royaume promis devait être caractérisé par la présence de Dieu, la paix, la justice, et ce n'est pas ce qu'ils voient. Alors quels sont les arguments avancés par l'auteur pour encourager ses lecteurs à attendre patiemment, sans douter, la réalisation de ce qui leur a été promis ? Eh bien son premier argument, c'est « Dieu a promis, or Dieu ne ment pas ». Tite 1, 2 par exemple. Deuxième argument, Dieu a juré. Et l'auteur rappelle comment les hommes procèdent lorsqu'ils veulent donner des assurances que leur engagement sera tenu. Il est de coutume parmi les hommes de prêter serment au nom d'un plus grand que soi. Vous connaissez les expressions « sur la tombe de ma mère »,« sur la tête de mes enfants », »,« sur la Bible ». Ben Dieu avait bien du mal à promettre sur la tête d'un plus grand que lui. Mais en disant cela, finalement, il engage tout son être, sa sainteté, son immuabilité, il ne change pas, son omniscience, il sait tout, sa toute-puissance, il peut tout, sa réputation, c'est tout cela qu'il engage quand il promet. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? Nous sommes donc en présence de deux actes irrévocables. Il est où Geoffrey? Irrévocable au sens de la loi. C'est fort, hein? Ça ne peut pas changer. En résumé, l'auteur dit au lecteur, ne doutez pas, celui qui a fait la promesse est fidèle, on trouve cela dans Hébreux 10, verset 23. Je ne commenterai pas les deux derniers versets qui préparent la transition vers les chapitres suivants. J'en arrive à résumer les principaux points du texte de ce matin. L'auteur a commencé par manifester une grande inquiétude pour certains membres de la communauté qui se montrent lents à comprendre et qui ne progressent plus sur le plan spirituel. Il les avertit vivement du danger qu'encourent ceux qui reviennent à leur ancienne vie. Ils risquent de ne plus pouvoir se repentir et donc ne pourront plus revenir à Christ. Mais il s'empresse aussi de rassurer tous ceux qui placent leur confiance dans la foi, dans les promesses immuables de Dieu. Jésus-Christ est une ancre sûre et solide dans la présence de Dieu. Alors, trois applications pour nous. Il me semble que le début du texte nous dit qu'un chrétien en bonne santé doit grandir. Et je dois vous dire que j'ai été profondément repris dans ma conscience et tout en méditant ce texte. Quand on pense au progrès attendu dans notre foi, moi je n'ai pas l'excuse de dire « oui mais moi j'en suis à un an, hein, donc doucement, ça ira mieux plus tard ». Non. Depuis 86, je vous laisse faire l'opération, ça fait une quarantaine d'années, quoi, donc j'ai eu le temps de faire des choses. Et où j'en suis dans mes progrès? Pour reprendre l'exemple aujourd'hui, mais comment est-ce que je me nourris? Est-ce que j'en suis encore au lait ou à la nourriture solide? Alors si je vous ai dit que j'avais été repris dans ma conscience, c'est parce que je ne voudrais surtout pas que vous croyez que mon but, c'est de vous culpabiliser. Il y a des moments où je n'ai pas fait mieux que vous. Et il y en a qui sont probablement bien plus avancés que moi encore. Mais il y a des questions qu'il est bon de se poser. Par exemple, qu'en est-il de ma connaissance des Écritures? Question toute simple. Est-ce que j'ai déjà lu la Bible en entier? Si je suis converti depuis un an, bah, probablement que je vais répondre non, j'ai pas eu le temps. Mais c'est normal pour un enfant. Et je me disais en même temps, quand on est jeune converti, on a souvent soif d'en découvrir plus. Je me rappelle que j'ai lu plus de choses au début, enfin la première année de ma conversion, que dans les années qui ont suivi. J'avais envie de savoir. Juste une parenthèse, pour voir à quel point j'étais modeste, je veux dire, je me suis dit, je vais lire la Genèse, je vais lire l'Apocalypse, puis probablement que j'arriverai à faire les pointillés, quoi, à relier les... Bon, j'ai vite compris qu'il fallait procéder autrement, quoi. Si je suis converti depuis une dizaine d'années et qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai pas encore lus, il y a un signal qui doit sonner à mes oreilles. Il faut peut-être que je change des choses. Est-ce que je vais continuer comme ça dans les 10 ans qui viennent? Ou est-ce que je vais changer mes habitudes pour combler ces lacunes? Je lis ma Bible tous les jours, ou un feuillet de calendrier. Très bien, je prends note. Et combien de temps pour méditer ce que tu viens de lire? Est-ce que quand on a lu le feuillet du calendrier, on est tellement pressé le matin, parce qu'il y a tant de choses à acheter, allez hop, on le range, j'ai lu, j'ai ma pensée pour la journée. Bon, vous allez dire, c'est facile pour un retraité de dire ça maintenant, hein. C'est plus facile de prendre le temps. c'est clair. Est-ce que je fais l'effort de mémoriser certains versets ? Pierre, tu nous as combien de fois exhorté à faire ça ? Où est-ce qu'on en est chacun ? Puisque la croissance spirituelle consiste à tendre vers la stature parfaite de Christ. Est-ce que tu vois des progrès dans mon comportement quand je regarde comment j'étais avant ? Est-ce que je suis toujours aussi enclin à juger les autres ? Ah, il pousse quand même, non, ça ne se fait pas, ça. Est-ce que je continue à voir la poutre dans mon œil, plutôt que la paille dans l'œil du voisin ? Est-ce que je suis plus attentif aux autres ? Combien de fois mon épouse a dû me dire, mais écoute davantage, parle moins. Et elle n'a pas gagné le combat encore. Est-ce que je prie ? Pour moi ou pour les autres aussi ? Est-ce que je me mets toujours aussi facilement en colère quand je suis contrarié ? Est-ce que je veille sur mes pensées, sur mes yeux, sur mes paroles ? Je ne sais pas, vous regardez un film à la télé, il est difficile d'échapper à une scène de sexe. Bon. Est-ce que vous regardez ? Ou est-ce que pendant un temps, vous fermez les yeux, enfin, vous détournez la tête jusqu'à ce que... C'est des choses toutes simples. Les paroles, est-ce qu'on parle comme les autres ? Est-ce qu'on emploie les mêmes expressions ? Là aussi, un témoignage, un cousin de Myriam travaillait dans l'armée, le gradé qui était dans son bureau, là, utilisait des jurons invoquant le nom de Dieu à longueur de journée. Et ça indisposait beaucoup mon cousin, qui ne savait pas trop comment réagir. Et un jour, il lui a dit, mon commandant, il va falloir que je quitte la pièce. Le commandant a dit, comment ça, il va falloir que vous quittiez la pièce ? Ben, il dit, oui, moi je suis croyant, et là, vous entendre jurer comme ça, moi je ne supporte plus. Donc je vais sortir. Et il est sorti. Et bien le commandant a arrêté de jurer. Voilà. Dans quelle mesure je reste influencé par le monde ? Est-ce que je suis capable de me déterminer en fonction de ce que je comprends des Écritures ? Ou est-ce que je continue à penser, suivant les courants de pensée du jour ? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser pour voir où on en est dans notre maturité spirituelle. Troisième point, un chrétien mûr est apte à faire des disciples. On l'a lu, hein ? Est-ce qu'il m'arrive de partager ma foi avec des non-croyants ? Pas facile, hein ? Et mon comportement en lui-même, si je n'ai pas la parole facile, est-ce que mon comportement en lui-même est un témoignage de ma foi en Christ ? Et vous pouvez ajouter des tas de questions pour faire votre bilan. Deuxième enseignement, l'assurance du salut ne dispense pas de persévérance. Et là, quelques exemples que j'évoquerai rapidement. Les Israélites, lors de l'Exode, ils ont vu, ils ont goûté, et pourtant ils sont tombés. Ésaü, qui a été négligent, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, il l'a regretté amèrement, il a essayé de récupérer son droit d'aînesse. Dieu lui a donné une fin de non-recevoir, pas de retour en arrière pour certaines choses. Le roi Saül, il a reçu le Saint-Esprit à certains moments. Il a chuté, il va me dire David aussi. Et quand on réfléchit comment ils ont réagi tous les deux une fois qu'ils ont été mis en face de leur péché, Saül s'est cherché des excuses. Ben oui, Samuel m'était en retard, le peuple s'énervait et tout. Et quand Nathan vient devant David, il lui dit « j'ai péché ». Il y en a un qui a été condamné, l'autre qui a été béni. Troisième application, nous croyons que le croyant peut avoir l'assurance du salut, à partir du moment où il place sa confiance en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Dieu a promis, Dieu ne ment pas, il ne change pas, et il honore la foi du croyant. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, Jean 9, verset 31, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à persévérer afin d'aller de progrès en progrès, comme le disait Paul. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Philippiens 3,14, un verset très facile à retenir pour moi. Philippe 3,14, pi, ce sera le mot de la fin.
Bien, eh bien, merci Philippe pour ces encouragements aussi, à persévérer. Ça rejoint un peu notre traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des passages, il y a des moments qui sont difficiles. Eh bien, quand on tient ferme, on avance, on progresse, avec toujours cet objectif. La vie éternelle en présence de notre Seigneur. Salut garanti, si l'on y croit. Je crois qu'on a quelques photos de nos jeunes qui sont dans la nature, ou pas. Et on conclura là-dessus. C'est pas très nature, ça. J'espère qu'ils ont de la crème solaire. Hein. Bien. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.